On va ouvrir la parole de Dieu très rapidement et redécouvrir un petit peu ce qu'a été l'expérience de deux disciples qui, à un moment donné, ont dû tourner dos à Jérusalem pour se diriger vers un village qu'on appelait Emmaüs. Luc chapitre 24. Alors, excusez-moi, la lecture sera plus ou moins longue, mais c'est bien de se plonger dans cette histoire vraie qui s'est passée bien pour nos deux amis, dont on ne connaît pas trop le nom, sauf un de ces deux disciples, Cléopas. Nous le découvrons dans le texte que je vous propose, Luc chapitre 24 à partir du verset 13. Luc chapitre 24 à partir du verset 13 et nous lisons ensemble. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui eut arrivé ces jours-ci ? » ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnées. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors, Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité » et il est apparu à Simon et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Je pense qu'on va s'en arrêter là. Amen. Quelle belle histoire de ces deux frères que nous allons retrouver certainement un jour certain dans le ciel de gloire. Nous voici donc en présence de deux disciples du Christ qui sont tristes. Ils sont découragés. Une grande déception marque leur visage, car trois jours auparavant, leur maître, le Seigneur Jésus-Christ, fut crucifié entre deux brigands. Alors les disciples avaient fondé tout leur espoir, toute leur espérance en ce merveilleux Sauveur Jésus. Les voilà maintenant anéantis, abattus, découragés. Ils étaient là tristes et comme je disais tout à l'heure en introduction, ils tournaient dos à Jérusalem et se dirigeaient chez eux, à peu près environ 11 km de Jérusalem, dans ce village appelé Emmaüs. Et je voudrais dès à présent nous dire que c'est vrai que tout comme ces deux disciples, il nous est certainement arrivé, un jour ou l'autre, même dans notre marche avec le Seigneur, d'être découragés et abattus. Est-ce que c'est à moi seulement que ces choses sont arrivées ? Je crois qu'il y a des moments dans la vie où même quelquefois on est capable de baisser les bras, d'être à terre. Pour certains même dire « j'en ai marre, je n'en peux plus ». J'abandonne même pour certains, excusez-moi l'expression, il jette l'éponge. Et c'est peut-être ta situation ce matin. Tu es là et même tu n'as même pas pu chanter les chants parce que tu es découragé. Et tu as l'impression que personne, eh bien, ne connaît ta situation, personne ne peut te comprendre dans ce que tu vis. Et ce matin, eh bien, tu es là et tu es dans l'abattement. Eh bien, je voudrais nous rappeler qu'avec Jésus, tout peut changer. Avec Jésus, tout change littéralement. Il est capable de changer le mal en bien. Il y a toujours avec Jésus une porte d'espérance. Avec Jésus, ce matin, les choses peuvent avoir une autre tournure, une belle tournure. Toi qui peut-être vis des moments difficiles, des moments d'épreuve. Et j'aimerais ensemble vous le prouver en méditant sur les différentes actions que Jésus a pu poser auprès de ses deux disciples. Ce n'est pas pour rien qu'on a lu ce long texte. Mais je voudrais avec moi que vous puissiez observer pas à pas tous les faits et gestes du Seigneur Jésus-Christ, sa délicatesse, son tact pour venir revigorer, fortifier la foi de ses deux disciples. Est-ce que vous voulez cheminer avec ces deux disciples avec moi, s'il vous plaît? On l'a lu ensemble, donc ces deux disciples sont là, le cœur pleinement attristé, et la Bible nous dit au verset 15, tout simplement, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Ça commence par cela. Jésus s'approcha de ses deux disciples. Et j'ai envie de faire rapidement le parallèle. Le Seigneur, et d'une manière générale, le Seigneur un jour s'est approché de l'humanité entière. Il a quitté son ciel de gloire, il est venu parmi les hommes, il s'est incarné, il a pris une chair comme la nôtre. Il a marché parmi les hommes. Et il a fait ce que nul autre homme n'a pu faire. Et pour nous chrétiens, ce matin, il est bon aussi de se rappeler que le jour où nous avons donné notre cœur au Seigneur, depuis ce jour-là, Jésus s'est approché de nous. Et plus jamais il ne nous a quittés. Au contraire, il a définitivement fait sa demeure au-dedans de nous par son Esprit Saint. Le jour où on a donné notre cœur au Seigneur, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est venu habiter notre cœur. C'est extraordinaire. On parle, on chante de choses presque à la rigueur qui nous dépassent, qui nous transcendent. Et il nous faudra peut-être toute l'éternité pour réaliser ce que Dieu, dans son amour, a fait à l'égard de chacun d'entre nous. C'est malheureusement une vérité que nous ne réalisons pas assez. On le sait, peut-être au travers de nos lectures personnelles, Dieu est avec nous, Jésus l'a dit, d'ailleurs, avant de remonter au ciel, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais quelquefois, bien souvent, on l'oublie, c'est pas vrai? En tout cas, ce fut le cas de ses deux disciples, ils ne reconnurent pas Jésus. Quelqu'un s'est approché d'eux, certainement avait-il la tête baissée, les yeux embués par quelques larmes, mais ils n'avaient pas reconnu Jésus. On le lit au verset 16, les yeux des disciples ont été comme empêchés de le reconnaître. Et bien souvent, lorsqu'on vit des épreuves, lorsqu'on vit des difficultés, on est comme empêché de réaliser pleinement que Jésus, plus que jamais, est à nos côtés. Et c'était l'exemple un petit peu de Job. Qui ne connaît pas l'histoire de Job? Et qu'est-ce qu'il n'a pas vécu, cet homme? En quelques jours, il a tout perdu. Il a même perdu la santé. Il a même perdu le soutien de son épouse qui a dit, écoute, si ça continue comme ça, maudit Dieu et meurt. Mais lui est resté ferme dans sa foi, dans sa confiance en Dieu. Oh, ça ne lui a pas empêché d'avoir toutes sortes de questionnements. Et on le voit par exemple dans Job chapitre 23 et le verset 3 où il se pose des questions. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Vous avez vu, même à Job, ça lui est arrivé d'oublier que Dieu était finalement tout près de lui, plus que jamais, au fort même de l'épreuve. Job chapitre 23, un peu plus bas, au verset 8 et 9, regardez ce qu'il dit. « Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. » Verset 9, « Est-il occupé au Nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au Midi? Je ne puis le découvrir. » Un homme qui est là et qui se débat dans ses épreuves, il tâtonne à droite, à gauche, il ne trouve pas la présence de Dieu. À qui c'est déjà arrivé aussi? On est là et on prie, on a l'impression même que notre prière n'arrive pas à dépasser même le plafond. Mais Seigneur, où tu es? Et il dit, si je vais à l'Orient, si je vais au Nord, si je vais au Sud, je ne te trouve pas. Quelquefois, on va très loin chercher ce qui finalement est auprès de nous. Et comme on n'a pas de réponse, alors on se tourne vers les uns, vers les autres, etc. On prend même l'avion, on va très loin. On surfe sur Internet. Pourtant, la réponse, elle est tout près de nous. Parce que Jésus, non seulement, eh bien, il s'est approché de nous, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il a décidé, alléluia, de demeurer au-dedans de nous. Il a dit qu'il ne nous abandonnerait pas. Il connaît nos peines, il connaît nos épreuves, il connaît nos échecs, il connaît ta tristesse ce matin, puisqu'il est fait mention, il est question de tristesse. Il sait tout, il voit tout, il entend, il connaît, il ressent, il comprend tout ce que nous pouvons vivre. Il sait que ces temps-ci, tu as du mal à avancer. Il sait aussi, excusez-moi l'expression, dans quelle galère tu te trouves. Dans quel désert spirituel tu te trouves présentement. Mais Dieu, qui se soucie de ton bien-être, veut te rappeler qu'il est tout près de toi. Il veut te rappeler ce que, un jour, Moïse a pu dire à ce jeune conquérant, Josué, dans Deutéronome chapitre 31, verset 8, un verset que j'aime beaucoup, que j'affectionne personnellement, mais qui peut-être ce matin pourrait répondre à un frère, une sœur qui passe des moments difficiles. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point, alors ne crains point et ne t'effraie point. Mon frère, ma sœur, ne t'effraie point. Ce serait complètement ridicule de repartir comme tu es arrivé. Aujourd'hui, le Seigneur, il vient et il sèche tes larmes. Aujourd'hui, le Seigneur, il vient et il se propose à bien de prendre le relais de ce lourd fardeau que tu as sur tes épaules et qui te fait courber les chines. Mais le Seigneur te dit, relève la tête. Le Seigneur marchera devant toi. Il sera avec toi, il ne te lâchera pas. Voilà une autre version, parole de vie. Il ne t'abandonnera pas. N'aie donc pas peur. Ne te laisse pas décourager. Que rien ni personne ne puisse, eh bien, ce matin, te décourager. Alors Jésus s'approche et fit route. Oh, combien de temps il est resté là ? Et sans que finalement ses deux disciples réalisent que c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui était à leur côté. Et puis c'est alors qu'à un moment donné, Jésus les aborde. Il les aborde avec une question. Une question que l'on retrouve au verset 17, Luc chapitre 24, verset 17. Jésus leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» J'aime à le dire, les questions, même les plus simples du Seigneur Jésus, ont toujours un but bien précis. Elles sont toutes pertinentes. Et dans la circonstance, eh bien, la question de Jésus était là pour aider ses disciples finalement à pouvoir analyser, à pouvoir réfléchir à ce qu'ils étaient en train de vivre en cet instant. De quoi vous entretenez-vous en marchant ? Est-ce que vous vous êtes entendu parler ? Est-ce que vous réalisez ce que vous dites ? Vous savez, on s'entretient de ce qui nous tient à cœur. On s'entretient de ce qui a de l'importance dans notre cœur. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, par exemple, Luc chapitre 6 et le verset 45. Luc chapitre 6 et le verset 45, si on peut l'avoir sur l'écran, ce serait super. Le Seigneur, il dit tout simplement, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et il rajoute, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Laissez parler les gens. Et au fur et à mesure, vous connaîtrez ce qui se trouve dans leur cœur. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Hein. Alors s'il y a de la joie, eh bien, les gens vont exprimer cette joie au travers de leurs paroles. Mais s'il y a de la tristesse, vous allez ressentir cette tristesse. S'il y a de l'amertume, vous ressentirez également cette amertume au travers de leur bouche. Par sa question, Jésus aussi a voulu mettre l'évidence sur la relation de cause à effet qu'il y a entre nos paroles mais également nos actions, avec nos relations entre nos paroles et nos faits et gestes. Regardez, quand on relit Luc chapitre 24, verset 17, Jésus dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que ?» Et ce « pour que » il est important. « Pour que vous soyez tout tristes. » Il y a une relation entre ce dans quoi ils s'entretiennent avec le fait qu'ils soient tristes. Et ça aussi, c'est un enseignement pour nous. Les deux disciples s'entretenaient, j'ai envie de dire, ils se nourrissaient de toutes sortes de paroles négatives. Et quelque part, cela affectait leur morale. Quelque part, alors qu'ils étaient en train de cheminer, alors qu'ils étaient en train de marcher vers leur village, là où ils habitaient, c'est-à-dire Emmaüs, la tristesse commençait de plus en plus à les envahir. Je crois que la Bible, elle est claire quand elle dit dans Proverbes chapitre 18 et le verset 20, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Toutes nos paroles ont à un moment donné une influence, déjà sur nous-mêmes, mais également sur les autres. Et finalement, la question que Jésus pose à ses deux disciples, il pourrait également nous la poser ce matin. Mon frère, ma sœur, de quoi tu t'entretiens? Quel est le sujet que tu as dans le cœur et qui finalement t'alimente, te nourrit jour après jour? Est-ce que tu te nourris de paroles négatives ou est-ce que tu te nourris de paroles positives? Plus je vais m'entretenir de choses positives et plus mon être s'en portera bien. On le sait, certaines discussions sont non seulement stériles, mais malheureusement, elle va venir même produire le découragement, elle a le pouvoir même de produire le découragement chez ceux et celles qui écoutent ces mêmes paroles négatives. Veillons à ne pas être, par nos paroles, une source de tristesse, déjà pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Je m'en tiens à ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, quand il dit par exemple, Éphésiens chapitre 4 et le verset 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à quoi ? L'édification, mais aussi communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Et je prie Dieu que ce qui sort de ma bouche ce matin puisse communiquer une grâce à vous tous qui m'écoutez. Et il faut qu'au quotidien, nous puissions communiquer une grâce à notre conjoint, pour ceux qui sont mariés, à nos enfants, pour ceux qui ont des enfants, à nos parents, à ceux qui nous entourent, à notre prochain, et même à notre ennemi. Amen ou pas amen? L'apôtre Paul va dire autre part dans Éphésiens chapitre 5, verset 19, et là, on est vraiment encore plus que jamais dans le vif du sujet, entretenez-vous, au contraire, par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ce qu'on a fait ce matin n'est pas anodin. En louant, en proclamant le Seigneur, on est en train littéralement de fortifier notre foi, et en même temps nous glorifions le Seigneur, parce que le Seigneur, il est digne de nos louanges, digne de nos actions de grâce. Alors Jésus les aborde avec une question, et bien sûr, Jésus prend le temps ensuite d'écouter leur réponse. Et là, il y a aussi un enseignement. Combien on est prompt à pouvoir parler, mais combien on a besoin aussi de pouvoir écouter, j'aime à le dire. Dieu nous a fait avec deux oreilles et une bouche. Trois points de suspension. On doit doublement écouter, apprendre à écouter, l'autre. Apprendre à avoir une oreille attentive par rapport aux besoins qui pourraient être tout près de nous et pour lesquels on ignore la présence. Apprendre à écouter notre conjoint, apprendre à écouter nos enfants, apprendre à écouter peut-être notre entourage, apprendre à écouter notre patron et pourquoi pas apprendre à écouter notre voisin, même s'il nous casse les pieds. Apprendre à écouter. Jésus, je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'il savait ce que l'un de ses deux disciples allait lui dire comme réponse? Mais bien sûr qu'il le savait. Le Seigneur, il sait toutes choses, il est omniscient, il savait parfaitement ce que Cléopas allait lui dire. Mais il prend le temps de pouvoir écouter son long discours, parce que c'est très long, on ne va pas le relire, du verset 18 jusqu'au verset 24. Voilà cet homme qui va essayer d'expliquer à Jésus ce qu'il pensait être la vérité, mais on l'a compris, ce qu'il a expliqué, c'est complètement erroné. Par exemple, il a comparé Jésus à un prophète puissant en œuvre et en parole. Mais Jésus n'est pas seulement un prophète puissant en œuvre et en parole. Qui est Jésus? Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il a dit que les hommes l'ont livré, condamné à mort. Mais est-ce que la réalité, c'est Jésus lui-même qui volontairement s'est livré et a connu même la mort de la croix à cause de notre péché, à cause de notre iniquité? Ils espéraient que Jésus les affranchisse de l'occupation romaine. Mais Jésus était venu pour une mission beaucoup plus grande. Il voulait nous libérer de la puissance des ténèbres et de la puissance du péché. Son œuvre allait transcender toute autre délivrance, toute autre guerre. Il est venu mener une guerre que nul autre homme, nulle autre personne n'aurait pu mener. Et il l'a menée seul. Et il a été victorieux, que Dieu soit béni. Et puis de plus, dans son discours, eh bien notre ami Cléopas est en train de bien expliquer à Jésus que finalement il était bien incrédule, parce qu'ils avaient entendu dire que certaines femmes avaient rencontré des anges et ces anges leur ont dit que Jésus était ressuscité. Mais dans le discours, on comprend eh bien qu'ils n'ont pas vraiment cru eh bien ce que ces femmes leur avaient dit de la part des anges. Et c'est alors que, et on rentre dans le point culminant, Jésus les amène sur le terrain de sa parole. Il a fini de parler. Jésus, sans aucun reproche, va commencer eh bien, à leur parler de ce qui le concernait. La parole qui s'est faite chair est venue prendre le relais, venir suppléer à notre cécité spirituelle qui nous empêche de voir les choses. Oui, on a besoin que Dieu nous ouvre les yeux. Et c'est ce que Jésus a fait eh bien, pour ses deux disciples. Jésus les a littéralement abreuvés de l'eau de sa parole. Jésus, eh bien, par les paroles qui sortaient de sa bouche, a commencé littéralement à allumer dans leur cœur un feu de foi, un feu d'espoir. D'ailleurs, les disciples l'ont confirmé par la suite quand ils vont dire un peu plus bas dans Luc chapitre 24 et le verset 32, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Lorsqu'on lit la parole de Dieu, non pas pour la lire, parce qu'on nous a demandé de la lire. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, réellement pour chercher Dieu, Dieu est capable, par son Esprit Saint, d'allumer un feu au-dedans de nous. Un feu brûlant qui va nous donner d'avoir soif de Jésus. Frères et sœurs, la parole de Dieu, il faut qu'elle soit vivante. Et dans notre quotidien, parce que souvent ça se passe à ce moment-là, quand on est eh bien, peut-être seul dans notre chambre, Seigneur, viens me parler. Et quand on s'applique, quand on s'efforce eh bien, d'éloigner de nous toutes sortes de distractions dans notre pensée, eh bien, Seigneur, viens me parler. Eh bien, le Seigneur, il nous parle. Il vient à notre rencontre. Et tout comme ses deux disciples, il allume un feu que nulle personne ne peut par la suite, alléluia, éteindre. La parole de Dieu fortifie. Elle fortifie notre foi. Vous connaissez ce passage, on ne va pas le lire, Romains 10, 17. Hein, si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle est capable également de nous guérir. Psaume 19, il restaure mon âme. Avec la parole de Dieu, on est capable d'être vivifié, on est nourri spirituellement parlant. Ça nous vivifie. Et c'est pour ça que Jésus a dit, eh bien, dans Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, la véritable méditation de la parole de Dieu, elle va littéralement susciter la soif de Jésus au-dedans de nous. Une soif qui va nous permettre de nous écrier eh bien, par le biais de la prière. Seigneur, reste avec nous, reste avec nous. Tu vois, le jour baisse et le soir approche. Je lis le verset 29 dans la parole, dans la version parole vivante. Il le retint avec instance en disant, reste donc avec nous. Tu vois, le jour baisse et le soir approche. Alors il entra dans le village pour demeurer avec eux. C'est pas beau ça? Ça, c'est l'effet de la parole de Dieu. C'est parce qu'ils ont laissé Jésus m'a bien leur communiqué la parole de vie. Et cette parole de vie a suscité la véritable prière. La parole et la prière sont, j'aime à le dire, les deux pieds de la foi. Elles vont de pair. Il faut la parole. Et la parole va nous aider à bien et va nous inspirer dans la véritable prière, celle qui plaît à Dieu, celle qui va être agréée par Dieu. Et ils ont eu raison de dire, reste avec nous. C'est le soir et bientôt il va faire nuit. Et nous aussi, on a besoin de dire, Seigneur, reste avec nous, parce que les temps deviennent de plus en plus difficiles. Reste avec nous, parce que, comme on l'a chanté, Christ seul me suffit. Reste avec nous, parce que je ne vois pas tout, parce que je ne sais pas tout, parce que toi seul, eh bien, tu es capable de me donner à éviter les embûches. Eh bien, tu es capable de me donner d'être plus que vainqueur jour après jour. La vraie méditation de la parole de Dieu m'amène à la véritable prière, qui me donne à réaliser que sans le Seigneur, je ne suis rien. Et on a eu raison de chanter « Ta grâce me suffit ». La grâce de Dieu, la présence de Dieu, la faveur de Dieu, c'est ça eh bien, dont nous avons besoin. Les plus grandes révélations ont été pleinement accordées à ceux et celles qui se sont mis à chercher Dieu de tout leur cœur, à implorer le Seigneur. « Seigneur, reste avec nous, car des temps difficiles approchent et nous menacent tous. » Plus que jamais, nous avons besoin de réclamer la présence protectrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors à cette prière, vous l'avez compris, Jésus qui a fait un peu semblant d'aller un peu plus loin, bien sûr, Jésus eh bien, voulait voir un petit peu ce qui était au plus profond de leur cœur. Évidemment, Jésus a accepté de pouvoir aller dans leur demeure. C'est beau quand vous invitez Jésus à venir, alléluia, demeurer avec vous dans votre propre maison. Seigneur, je veux ce culte avec toi et je voudrais eh bien que tu puisses être l'invité d'honneur. Alors ils se sont assis, ils ont dressé la table. Ils étaient tellement enthousiasmés, la tristesse avait pris place, avait laissé place eh bien, à une porte d'espérance que Jésus venait d'ouvrir. Ils dressent la table et Jésus prend à un moment donné le pain et il le rompit devant eux. Luc chapitre 24 et le verset 30. Et dans ce moment précis, plus que jamais, parce qu'ils ont aspiré à rechercher davantage, à en savoir plus sur Jésus. Ils ont aspiré à pouvoir s'approcher de Jésus. Jésus entre encore plus en profondeur dans une révélation beaucoup plus grande de qui il est. Et c'est alors qu'il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Bien sûr, vous l'avez compris, le fait de rompre le pain, c'est pour nous l'image de ce corps qui a été brisé pour nous. L'image de ce que eh bien, Jésus avait précédemment, 3 jours avant, auparavant, expérimenté. Son corps a été brisé. Il a connu la flagellation. Mais pire encore, il a connu la mort de la croix. Ce pain qui a été rompu pour nous, c'est le corps de Christ qui a été brisé. C'est pour ça que dimanche après dimanche, nous nous retrouvons autour de cette table pour nous rappeler ce qu'a été l'expression même de l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu nous aime eh bien, qu'il a pris notre place comme un parfait substitut sur la croix. C'est parce que Dieu t'aime qu'il te parle ainsi ce matin, qu'il voudrait sécher tes larmes. Il veut avec toi rompre le pain, te donner littéralement sa chair, et c'est spirituellement qu'il faut comprendre ses paroles, afin que tu puisses t'en nourrir et que tu puisses retrouver des forces pour à tout à nouveau te lever et continuer de plus belle avec le Seigneur. Je disais, les plus grandes révélations ont été accordées à des personnes qui ont pris le temps, alléluia, de pouvoir se tenir dans la présence de Dieu. J'ai des exemples pour vous. Moïse, par exemple, sur la montagne. 2 fois 40 jours et 40 nuits, il était là sur la montagne. Et c'est lui qui nous a rapporté toutes les révélations eh bien, des premiers livres de la Bible. Les 5 premiers livres, le livre des Pentateuques, les commentateurs sont pratiquement tous unanimes pour reconnaître que ça ne pouvait être que Moïse qui pouvait écrire ces 5 premiers livres. Ce cœur à cœur qu'il a eu quand il était seul sur la montagne avec Dieu. Un autre exemple, c'est Daniel auprès du fleuve eh bien, Hiddekel, et là, pendant des semaines, avait choisi de pouvoir chercher Dieu par le jeûne, a reçu des révélations extraordinaires. Pierre, qui avait eu à un moment donné, qui avait faim, est monté sur le toit. Et au lieu de prendre quelques petits apéritifs, il a décidé de se mettre aussi en prière. Et il a eu de grandes révélations également. Jean sur l'île de Patmos, à cause de sa voix, emprisonné, je suis sûr, a cherché la face de Dieu. Et c'est alors qu'il a eu des visions divines, et c'est lui qui nous a rapporté le livre de l'Apocalypse. Élie dans la caverne, sur le mont Horeb, et je pourrais continuer la liste. Jésus se révèle à ceux et celles qui le cherchent de tout leur cœur. Et je crois que nous avons besoin d'avoir cette soif. Je crois qu'on a besoin eh bien, de demander au Seigneur, « Seigneur, suscite cette soif, afin que je puisse désirer ta présence ardemment, et que cette présence puisse m'apporter toutes les révélations dont j'ai besoin, mais aussi qu'elle puisse me transformer. » Et je voudrais terminer par cela. Ces deux disciples ont été littéralement transformés. Ils ont été transformés dans leur cœur, ils ont été transformés dans leur langage, dans leur destination. Tout a changé. À la suite de leur expérience avec Jésus, les disciples ne sont plus les mêmes. Ils ont été littéralement métamorphosés, comme la chenille qui rampait. Et puis qu'à un moment donné, eh bien, se transforme en un magnifique papillon. Voilà eh bien, l'œuvre que le Seigneur veut accomplir dans notre cœur si nous le laissons agir. Alléluia, si nous le laissons nous toucher. Je parle de changement de cœur. Pourquoi ? Parce que la tristesse a laissé place à un cœur brûlant et rempli de zèle. Je parle également de changement de langage, parce qu'ils ne parlent plus maintenant d'un Christ qui est mort, mais ils choisissent maintenant de parler d'un Christ qui est ressuscité. Changement de destination, parce qu'au beau milieu de la nuit, quand ils ont vu que c'était bel et bien Jésus, qui venait juste à l'instant de disparaître devant eux, au beau milieu de la nuit, ils décident de remettre leurs chaussouliers aux pieds, de prendre peut-être leur bâton et direction Jérusalem. Maintenant, face à Jérusalem, ils ont un message. Et frères et sœurs, j'ai envie de le dire, je voudrais terminer par cela, l'Église a un message à transmettre. C'est nous qui devons apporter l'espoir aux gens. C'est pas la politique, c'est pas d'autres organismes, c'est pas ceci ou cela, c'est pas une chose quelque... C'est l'évangile, la bonne nouvelle. Et nous avons cette responsabilité, alléluia, de mettre le zèle que met donc les souliers de l'évangile, eh bien, lorsqu'on les met à nos pieds, ce zèle, eh bien, nous pousse à pouvoir, au beau milieu de la nuit de ce monde, eh bien, avoir un seul et unique message, Jésus-Christ est réellement ressuscité. Ils ont fait 11 kilomètres. Peut-être y avait-il des dangers entre Jérusalem et Emmaüs, mais ils n'ont pas regardé ça. Vous savez, la Bible dit dans le livre, je crois, d'Ecclésiaste, si on regarde le temps, on ne s'aimera jamais. Et le temps passe, on n'a qu'une vie. Et il est bon de pouvoir l'utiliser à pouvoir servir le meilleur des maîtres, le Seigneur Jésus-Christ. Que dire en conclusion ? Nous passons tous, un jour ou l'autre, par le chemin d'Emmaüs. Un jour ou l'autre, on est confronté à l'abattement, on est confronté même à la tristesse. J'ai envie de dire, c'est la part de l'homme, ici-bas, sur cette terre. Mais on a besoin de nous rappeler que le Seigneur fait route avec nous. Mon frère, ma sœur, le Seigneur fait route avec toi. Même si tu ne le sens pas, même si tu ne le vois pas, mais c'est par la foi que tu peux réaliser ce matin que Jésus fait route avec toi. Et il désire, tout comme les deux disciples, fortifier ta foi. Fortifier ta foi par la parole. N'allez pas chercher autre chose que la parole. Il y a un retour à la parole. Il y a bien ce sérieux à revenir, à plonger nos regards, comme dit l'épître de Jacques, pour réellement entendre la voix de Dieu, parce que Dieu parle par sa parole. Il désire aussi enlever toute tristesse dans ton cœur, tout découragement. Et tu sais de quoi je parle. Quelque chose que peut-être tu peux cacher aux autres, mais que Dieu connaît. Et ce matin, il voudrait en retour mettre au plus profond de ton cœur la joie et beaucoup d'amour pour ton Seigneur. Il désire aussi que tu puisses te relever avec un merveilleux message, celui de proclamer autour de toi comme un véritable témoin que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Je prie Dieu pour que l'Église puisse se lever comme un seul homme et, alléluia, de tout notre cœur, avec passion, dire aux gens qu'ils n'ont plus besoin de pleurer parce qu'il y a un espoir. Il y a un espoir pour ce monde. Jésus-Christ, il y a déjà plus de 2000 ans de cela, a prouvé son amour. Il a donné sa vie sur la croix pour qu'en retour nous puissions être plus que vainqueurs. Frères et sœurs, comprenons. Comprenons le cheminement, alléluia, de ces deux disciples. Et si peut-être vous êtes sur ce chemin d'Emmaüs, Dieu veut vous faire grâce ce matin. Dieu veut sécher vos larmes. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, merci pour tous ces témoignages. Seigneur, que tu as imbriqué, superposé. Seigneur, que tu as aligné dans ces différents évangiles pour nous rappeler, Seigneur, ton amour, ta miséricorde et ta compassion. Oui, ta grâce qui nous suffit. Et qui est en mesure de nous accompagner, même pour venir suppléer à nos faiblesses. À aucun moment tu as méprisé ces deux disciples. Avec un grand amour, tu as éclairé leur cœur, qui était assombri par la tristesse. Et ce matin encore, tu veux, Seigneur, sécher les larmes. Tu veux apaiser les cœurs. Tu veux relever celui qui est dans l'abattement, celui qui a fini de marcher. Tu veux revigorer, fortifier par ta parole. Tu veux, Seigneur Père, toucher du doigt, car, Seigneur Père, mon Dieu, une parole de toi suffit pour redonner vie, même à l'âme qui est abattue, qui est attristée. Seigneur, viens sécher les larmes, viens passer ton baume et viens guérir encore en ce matin, alors qu'on a les têtes baissées, alors qu'on a les yeux fermés. Ce matin, le Seigneur, il s'approche de toi. Je crois que ses disciples ne savaient pas que cette journée allait être conclu, ponctué de cette manière. Ils ont vécu une merveilleuse journée. Si toute la journée ils ont pleuré, bien sûr le soir, les choses ont changé. Parce que lorsque Jésus passe quelque part, tout change. Tout change du tout au tout. Tout change, alléluia, et il change le mal en bien. Et ce matin, le Seigneur, il veut sécher tes larmes. Tu as assez pleuré. Où vas-tu avec cette tristesse que tu portes et que tu véhicules dans ton cœur? Le Seigneur, il veut mettre place à sa joie, à sa paix dans ton cœur. Et si quelqu'un se sent concerné, par ses paroles, je voudrais vous inviter à pouvoir vous lever à votre place, alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés. Toi qui connais ces luttes, toi qui es découragé, toi qui es abattu, toi qui penses que le Seigneur peut-être est occupé ou indisponible pour toi, Dieu voudrait, tout comme ses deux disciples, t'éclairer et te dire plus que jamais, il est à tes côtés. Y a-t-il d'autres personnes qui ont besoin de se lever et faire un acte de foi et laisser Christ tout à nouveau rompre le pain? Le pain, alléluia, le pain de vie. Rompre sa propre chair pour vous la communiquer et vous nourrir spirituellement et vous donner à retrouver la vue spirituelle pour que vous puissiez avancer et continuer à avancer parce que le chemin est encore long pour chacun d'entre nous. Il est à la porte, il revient bientôt et ce n'est surtout pas le moment de baisser les bras. Si c'est ton cas, lève-toi et le Seigneur va faire grâce. Alléluia. Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui se sont levées. Il n'est pas besoin de savoir si c'est un tel ou une telle, toi tu le sais. Et Seigneur mon Dieu, c'est toi qui viens et qui t'approche de chacun et chacune. Je te prie de toucher les cœurs. Je te prie de sécher les larmes. Seigneur mon Dieu, il n'y a que toi qui avec délicatesse, avec un grand respect. Seigneur Père mon Dieu, avec tact, sais venir et soigner même les plaies les plus douloureuses. Seigneur, tu es capable, Seigneur Père mon Dieu, de pouvoir extirper tout mal de nos vies. Tu es capable de pouvoir soigner, Seigneur Père, et faire même des opérations chirurgicales, Seigneur Père mon Dieu, que nul autre homme ne peut faire, nulle autre personne peut faire. Alors je te prie d'apporter consolation, d'apporter la paix, la guérison à toutes ces personnes qui se sont levées. Quelle que soit leur situation, Seigneur, tu rentres, mon Dieu, avec eux, Seigneur Père, dans leur situation. Seigneur Père, mon Dieu, pour faire éclater ta gloire, pour faire manifester ton bras puissant, au nom de Jésus. Parce qu'à la croix, Seigneur, non seulement tu t'es occupé de nos péchés, mais tu as pris aussi nos maladies, nos infirmités, tu as pris nos soucis. Tout a été accompli sur la croix. Alors merci encore d'intervenir pour la seule gloire de ton nom. Et au nom de Jésus, que mes frères et mes sœurs puissent vivre la joie, que mes frères et mes sœurs puissent vivre la victoire, que mes frères et mes sœurs puissent vivre maintenant, Seigneur Père, un renouveau, un changement, une transformation, au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, tu as dit, tu envoies ta parole et tu les guéris. Ce n'est pas l'homme qui fait, c'est toi. Seigneur, nous aimons te voir agir. Nous aimons te voir réparer. Tu es le réparateur des brèches. Tu es celui qui nous relève. Alors que nous sommes, Seigneur, mon Dieu, au plus bas tombé, tu nous relèves et tu nous fais asseoir parmi les grands. Voilà ce que nous dit ta parole. Voilà ce que, Seigneur, tu nous as laissé comme promesse. Alors, Seigneur, reste avec nous. Seigneur, le jour décline. Les temps s'assombrissent. Les ténèbres s'épaississent sur la terre. Plus que jamais, nous voudrions nous attacher à toi et demeurer en ta présence. Merci encore, Seigneur. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen.